Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Allez, c'est reparti pour un gros quart d'heure d'infomédia. On est ensemble jusqu'à 10h sur France Inter.
Vous êtes en direct, allez-y.
Étude menée par une université américaine. Aux États-Unis, la presse locale accuse un recul tellement effrayant qu'on parle désormais dans certains comtés de désert médiatique. Et en France, alors ? Habitez-vous une région où les marchands de journaux ont fermé, où les journaux régionaux sont inexistants, où les journalistes ne viennent plus faire leur travail, pire, où les journalistes ne vivent plus ? Tout simplement. C'est un vrai problème parce que, figurez-vous, les journalistes ont tendance à voir le monde de là où ils se trouvent. Et que vous, vous avez besoin de voir le monde loin de chez vous, certes, mais aussi près de chez vous. À l'heure où les inégalités territoriales font la une, l'Instant M s'interroge sur les déserts de presse et sur leurs conséquences pratiques et démocratiques.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Madame, Monsieur, bonjour. Curieux décor pour ce Picardie Sport. Comme nous vous l'annoncions, ce magazine est enregistré depuis les locaux de la rédaction sportive du Courrier Picard. Nous sommes dimanche, il est presque 19h et inutile de vous préciser qu'ici, dans cette rédaction sportive, eh bien, on s'active pour collecter, traiter et plus tard mettre en page l'information sportive du week-end.
Voilà, bienvenue dans cet Instant M, donc où je reçois Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle que vous avez écrit ce petit livre rouge « Sauver les médias » publié au Seuil, qui découlait de vos travaux de thèse justement aux États-Unis, où vous mettiez en regard l'effondrement de la presse locale et la chute du taux de participation aux élections. Depuis, vous avez continué à poursuivre vos explorations du côté de la science politique avec le prix de la démocratie qui vient de sortir chez Fayard. À vos côtés, Cyril Petit, bonjour Cyril.
Bonjour Sonia.
Rédacteur en chef central au journal du dimanche, on vous connaît bien dans l'Instant M, vous êtes fin connaisseur du tissu régional en matière de presse. On va parler d'édition, on va parler aussi de distribution et on va repartir avec vous en Picardie, bien entendu pendant cette émission Cyril. Un petit mot d'abord sur la presse locale en France. On ne peut pas parler de zone blanche en France, en revanche on peut parler d'inégalité de la répartition de la couverture par la presse régionale, de la couverture locale. Alors, il n'y a pas en France de département Cyril sans aucun titre de presse. Ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Alors, il y en a certains où il y en a très peu. Hein. Mm-hmm. Certains n'ont qu'un titre de presse quotidienne, mais n'oublions pas qu'il y a la presse hebdomadaire régionale. Ouais. Hein, ça, c'est 300 titres en France.
Ouais.
Donc, il y a 66 quotidiens, 300 titres. Et puis, les
66 quotidiens, ça fait quand même 3,5 millions d'exemplaires
à
par jour.
Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, donc, tous ces hebdomadaires qu'on vient d'évoquer, qui sont des tout petits hebdomadaires. Hein, certains ne tirent qu'à 1000 exemplaires, mais en tout cas, ils font de l'info hyper locale. Et puis, alors là, on parle de la presse, certes, mais n'oublions pas quand même France Bleu, le réseau, et puis France 3 Régions, qui sont aussi des moyens de s'informer. Mais en ce qui concerne la presse, on a certains départements et concernant les quotidiens et les hebdos, par exemple la Marne, la Marne n'a qu'un journal régional qui couvre
l'Union,
sa région. Donc ça, il y a une très intéressante étude d'INA Global là-dessus qui a répertorié le nombre de journaux par département. Et en effet, il y a non pas des déserts, mais il y a des zones où on est mieux loti que d'autres.
Alors, il y a quand même des zones où il y a pas mal de titres. Hein, les Hauts-de-France, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Bretagne. La Bretagne, ça reste quand même un formidable exemple de vivier pour la presse.
Oui, et surtout la Bretagne, c'est un des rares endroits, on va pas faire référence ici aux irréductibles Gaulois d'Astérix, mais c'est un des rares endroits où il y a une vraie concurrence. C'est-à-dire que sur une partie de la Bretagne, on a deux journaux qui se font concurrence, Ouest France et Le Télégramme, et surtout deux journaux qui sont de deux groupes différents. De la concurrence comme ça, il y en a assez peu ailleurs en France. Hein. On peut citer quand même une ville qui fait un peu exemple, vous parliez de la
Picardie justement,
Sonia, donc c'est Beauvais. Beauvais par exemple, il y a quatre journaux, deux quotidiens et deux hebdomadaires qui sont de quatre groupes différents, qui se tirent la bourre au quotidien à Beauvais. Donc voilà, mais c'est rare. À plein d'autres endroits, on a un seul quotidien.
On va y revenir à la question de la concurrence. À vos côtés, donc Julia Cagé, j'aimerais qu'on reprenne comme point de départ, puis ensuite on va réfléchir aux conséquences de tout ça. Cette étude publiée par une chercheuse qui s'appelle Penny Abernathy en Caroline du Nord, qui est parue pile au moment des midterms. Donc vraiment un enjeu électoral électorale, un appel au vote et aux urnes absolument crucial pour la vie quotidienne américaine. Je donne rapidement les chiffres. Hein. 1800 journaux locaux ont disparu depuis 2004 aux États-Unis. 1800, hein. On compte aujourd'hui 200 comtés qui n'ont plus de journal local, 1500 comtés qui n'en ont qu'un seul, et bien souvent c'est seulement un titre de presse hebdomadaire. Bref, voilà. Et en plus, on sait que ces déserts médiatiques touchent des populations à faible revenu et des populations faiblement éduquées. Je vous propose d'écouter Penny Abernathy quand elle est revenue chez elle en Caroline du Nord, le constat qu'elle en a fait et les commentaires d'un journaliste de CNN.
Les seules infos que j'ai eues, il fallait que j'aille les chercher. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que je cherchais ces informations, je tombais sur des sites payants. Et même si je fais l'effort de chercher cette information, elle reste encore difficile à trouver.
Donc, que peuvent faire les gens? Ils reçoivent beaucoup de mails des candidats, ils voient beaucoup de pubs à la télé. Évidemment, c'est ce que le candidat veut que vous voyez. Et il y a Facebook où beaucoup de débats politiques ont lieu. Mais ce ne sont que des relais et non des enquêtes. Les gens ne font que relayer des opinions. Et ils s'engueulent. Donc, beaucoup de communautés sont laissées de côté. Et c'est un problème de plus en plus visible à chaque nouvelle élection. Comme le dit Abernathy, c'est un vrai problème pour la démocratie.
Voilà, et le Figaro, quand l'étude de Penny Abernathy était sortie, avait remarqué qu'un certain nombre de grands titres de presse locale aux États-Unis ne se donnaient même pas les moyens de publier les résultats des élections des midterms pour leurs lecteurs. C'est-à-dire qu'ils non seulement ils n'étaient pas informés avant de se rendre aux urnes, mais en plus, même pas le lendemain matin du vote. Julia Cagé, c'est important de montrer le lien entre démocratie locale et presse locale.
Oui, c'est extrêmement important. Alors, il y a quand même deux choses. Il faut dire qu'en plus, aux États-Unis, on part d'une situation où on avait une presse locale beaucoup plus riche.
Oui.
Qu'en France, vous citiez tout à l'heure le fait qu'il y a un certain nombre de comtés où il n'y a plus qu'un titre, ou plus aucun titre. Les comtés américains sont beaucoup plus petits en taille que les départements français. Et pendant de nombreuses années aux États-Unis, on avait une presse locale au niveau des villes. Donc, on avait un ou deux titres de presse locale par ville, et souvent on avait même des tirages le matin et le soir. Donc le choc est d'autant plus violent qu'on avait une structuration beaucoup plus riche de la presse locale aux États-Unis qu'en France historiquement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'une part, on a eu une fermeture d'énormément de titres. D'autre part, on a eu un rachat de la plupart des autres titres par des grands groupes qui sont cotés en bourse et qui ont diminué drastiquement les effectifs. Donc non seulement on a des déserts en termes d'information,
mais
malheureusement,
où il n'y a plus de
journaux. Voilà. Mais dans les endroits où il y a encore des journaux, la qualité de ces journaux s'est complètement effondrée. Et en plus, il y a un problème de biais médiatique parce qu'on a quand même des structures actionnariales avec des préférences politiques assez marquées. Quelles conséquences ça a ? D'une part, quand les gens sont moins informés, ils vont moins voter. Ça, c'est la
c'est
première
mécanique.
Chose. Ils sont pas au courant qu'il y a des élections. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les journaux ont même pas pris la peine de publier les résultats des midterms. Il y a quand même toute une population américaine qui aujourd'hui est coupée de l'information. Donc ils sont même pas au courant finalement qu'il y a des midterms. Alors ils savent qu'il y a des midterms, ils sont pas au courant des enjeux, ils vont pas voter. Deuxièmement, quand ils vont voter, et là il y a une étude américaine qui l'a très bien montré, ils votent pour des partis plus populistes quand les citoyens sont moins bien informés. Donc il y a une étude qui a regardé le vote pour le Parti républicain en 2012 et le vote pour Trump en 2016, et on voit qu'en termes relatifs, Trump a obtenu beaucoup plus de votes en 2016 dans les endroits où il n'y a plus de journaux locaux, et donc en fait où les gens sont désinformés et vont se tourner vers l'information disponible en ligne ou sur des sites de propagande comme Breitbart. Troisièmement, il y a une autre étude américaine qui a documenté le lien entre la fermeture de titres américains et une chose très simple, ils ont regardé le taux d'intérêt auquel les municipalités empruntent. Et
oui.
Ce qui montre,
le taux d'intérêt bancaire,
c'est que là où il y a plus de journaux locaux, le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, on a des gouvernements qui sont beaucoup moins responsables par rapport à leurs citoyens.
Qui ont moins de comptes à rendre.
Voilà, ils ont plus de comptes à rendre.
C'est extrêmement intéressant.
Les citoyens sont plus informés. Et du coup, ça dégrade également la qualité de la démocratie. Puis le dernier point, c'est que dans tous ces endroits-là, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de scandales de corruption qui sont révélés en moyenne. Alors, soit on peut considérer que là où il y a plus de presse, les gouvernements deviennent honnêtes.
Formidable.
Soit on peut.
Formidable.
Un peu plus réaliste.
Et on dit qu'il y a moins de contre-pouvoirs. Voilà. Il y a moins de contre-pouvoirs. Cyril Petit, c'est intéressant ce que vient de signaler, entre autres, Julia Cagé, puisque qu'elle dit notamment que par les rachats et les phénomènes de concentration, il y a aussi des groupes qui sont cotés en bourse, et donc des groupes qui, pour accroître la rentabilité de journaux qui ne perdent même pas d'argent, de toute façon diminuent le nombre de journalistes et diminuent la qualité éditoriale de ce que les lecteurs vont trouver en kiosque. L'étude américaine parle même, elle, de journaux fantômes. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, qu'on se pose la question en France, Cyril Petit. Est-ce que nous avons des journaux fantômes? C'est-à-dire, est-ce que nous avons des journaux qui font semblant de parler aux gens de leur vie quotidienne et de leur région et qui, en réalité, se sont vidés de leur contenu?
Alors, on n'a pas des journaux fantômes. En revanche, on a des journaux qui se ressemblent. On sait, en France, il y a environ une dizaine de groupes de presse. La presse quotidienne régionale. Et surtout, on a des journaux qu'on croit différents quand on voit leur une, mais qui, en fait, à l'intérieur, sont les mêmes. Oui. Par exemple, Châtellerault, oui. Où vous avez La Nouvelle République et Centre Presse. Les unes sont différentes, mais l'intérieur du journal est le même. Donc, historiquement, les gens ont l'habitude d'acheter un titre ou l'autre, mais en fait, le Centre Presse ayant été racheté par La Nouvelle République, c'est le même journal à l'intérieur.
Et puis, il y a aussi la mise en commun de contenus éditoriaux.
Dans le Nord, donc la Voix du Nord et Nord Éclair n'ont pas le même journal complet en commun, mais on a des contenus qui sont repris de l'un et de l'autre, mais chaque matin la une est différente, le traitement de l'info locale peut être différent, mais il y a des contenus qui sont communs entre les deux journaux qui pourtant ont deux titres historiques différents.
Voilà, donc ça signifie un déficit d'information locale, c'est-à-dire je vous parle de là où je suis. Et ça, c'est le journaliste qui écrit. Et on me parle de là où je vis. Et ça, c'est pour le lecteur. J'aimerais vous faire entendre le contenu d'une vidéo qui a été tournée à Marseille un quart d'heure avant l'effondrement de cet immeuble en centre-ville. Cette vidéo, elle a été d'abord authentifiée par un site d'actu qui s'appelle Mars Actu, qui ensuite l'a publiée sur son site.
J'ai déjà plus fermé la porte. Décalage ici, plusieurs centimètres. Il y a une urgence, clairement. Cette porte se ferme, elle ne se ferme plus. En quelques heures, ça s'est aggravé.
Voilà, et c'est là que, évidemment, c'est des histoires comme celle-ci qui rendent absolument cruciale la présence de journalistes sur le terrain. Quand je dis les journalistes ont tendance à parler de là où ils vivent, Julia Cagé.
Oui, ils ont tendance à parler de là où ils vivent et puis de leur point de vue, c'est-à-dire aussi de là d'où ils viennent. Et c'est d'ailleurs un des reproches qui parfois leur est fait. Ensuite,
très souvent.
Là, c'était Mars Actu.
Et on le sent bien là en ce moment avec les gilets jaunes. C'est l'un des reproches qui est fait aux médias nationaux.
Ce que j'avais en tête. Là, si on veut être un tout petit peu positif, puisque vous avez pris un extrait de Mars Actu, il y a quand même un tout petit renouveau des médias au niveau local. On le voit avec Mars Actu, il y a tout le réseau Médiacité qui est en train de se développer.
À Lille, à Lyon, à Toulouse, à Nantes.
Il y a Disclose qui vient de se lancer, qui est un peu le ProPublica à la française, qui propose du journalisme d'investigation et aussi d'en faire au niveau ultra-local.
Il y a Eddy qui est du côté de Strasbourg, qui avait sorti le scandale du SAMU.
Voilà, et on voit ça aussi exactement aux États-Unis, où aux États-Unis on voit le recours finalement au journalisme à but non lucratif comme Disclose pour faire de l'info ultra locale. Parce que c'est quoi le problème au niveau ultra local, c'est qu'on n'a plus un marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lecteurs qui sont prêts à payer, qui sont prêts à s'abonner. D'ailleurs, c'était extrêmement frappant tout à l'heure dans l'extrait que vous avez diffusé. La chercheuse américaine disait, mais dès que je trouvais de l'info, c'était payant.
C'était payant.
Oui, sauf que historiquement, quand même, pour avoir de l'info, fallait acheter un titre. Donc là, on s'est un peu déshabitués aux payants. Et si on veut donner de l'information locale de manière gratuite, il faut avoir des modèles qui soient des modèles à but non lucratif. Et je pense qu'il faut aussi développer au niveau local cette forme de journalisme. Et je pense qu'il y a une vraie demande
Citoyens. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas quand même opposer d'un côté la presse historique régionale qui, parce que concentrée, on aurait des journalistes qui ne font pas d'investigation et qui se contentent de faire de la micro-locale. Il y a des journalistes en presse régionale qui sortent des scoops, qui font font de l'investigation, qui font des infos, et de plus en plus. Et voilà, donc c'est vrai. Et d'ailleurs, la concurrence locale, quand on a des sites comme Mars Actu, bah, ça motive.
Elle est vertueuse.
Voilà, exactement. Elle est vertueuse. Et donc, voilà. Donc là, comme on dit, la PQR se rebiffe aussi en ce moment. Et on le voit, ça bouge et c'est très bien. Et donc, ça, c'est un petit sursaut qui est encourageant.
Un mot avec vous, Cyril, parce qu'on a parlé de là où travaillent les journalistes, là où vivent les journalistes, ce qu'on peut trouver comme journal local dans son département. Et les points de vente, alors parce que ça, c'est un des grands scandales qui couvent, et l'Instant M vous en a parlé plusieurs fois. Tout le système de distribution de la presse en France est en train de s'écrouler économiquement.
Les points de vente, donc il y a 10 ans, 30 000 points de vente de presse en France. Ouais. Hier, les chiffres d'hier, décembre 2018, on est environ à 22 700. Ouais. Donc voilà, donc ça continue à chuter. Et là, Sonia, on peut parler peut-être encore plus d'inégalité. Puisque sur les 35 000 communes de France, il y en a un peu moins de 10 000 qui ont un point de vente de presse.
C'est-à-dire moins de 10 000
oui, et 6 500 n'en ont qu'un. C'est-à-dire que le jour où ce point de vente va s'éteindre, ça va s'ajouter au nombre de communes de France qui n'ont pas de point de vente de presse.
Alors une bonne raison de prendre sa voiture et de faire des kilomètres et de cramer de l'essence, et au moins pour aller chercher de l'information. Non mais
évidemment,
l'accès à l'information, c'est vital. Et donc, Cyril, continue.
Donc des vraies inégalités régionales et départementales. Alors évidemment, là-dedans, il faudrait prendre en compte la question de la superficie du département, la question de la population.
Bien
mais
sûr.
Dans la Creuse, il y a eu environ 70 points de vente. En Lozère, il y en a moins de 50, territoire de Belfort, moins de 50 aussi. Donc là, on a des vraies inégalités d'accès à l'information. Alors, on pourrait dire oui, mais les gens peuvent aller sur Internet. C'est pas la même chose. Et Julia en parlait, il y a l'histoire du modèle économique. Si on ne trouve plus de points de vente physiques avec un journal physique, eh ben, la marque, petit à petit, elle a du mal à imprégner.
Voilà, et puis on a été voir sur des sites comme placeducommerce.com, il y a des dizaines et des dizaines de marchands de journaux à vendre en France, si ça éveille chez vous
beaucoup
des vocations.
Beaucoup plus que des boulangeries et des boucheries.
Voilà, si ça éveille des vocations. Julia Cagé.
Oui, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, et vous en avez déjà parlé dans cette émission, c'est la vente d'un certain nombre de titres de Lagardère à Reworld Media, qui est en train quand même...
De titres de presse magazine.
De titres de presse magazine, et qui est en train d'affaiblir très fortement ces titres. Pourquoi j'en parle? Parce que si ces titres de presse magazine s'effondrent, c'est tout le système de Prestalis qui va s'effondrer en France.
Ça, c'est le réseau de distribution.
Tout le système de distribution. Et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des kiosques, ça pourrait encore s'aggraver un peu plus.
Mais ça va s'aggraver. On le sait très bien. On sait très bien que le système est au bord du gouffre.
Oui,
Personne ne s'en cache.
Faut pas être fataliste. Hein. En 2012, on a un gouvernement qui avait remis de l'argent dans Prestalis pour sauver Prestalis de la faillite. Là, il faut clairement penser à des modèles alternatifs pour Prestalis. Peut-être qu'il faut davantage d'argent public, peut-être qu'il faut que certains titres contribuent davantage. Moi, je pense qu'il ne faut pas être complètement fataliste et de dire ça va s'aggraver, ça va s'effondrer. Il faut plutôt se dire que c'est une mauvaise chose qu'il y ait de moins en moins de points de vente. On voit qu'en termes de contenu, Cyril le rappelait, la presse quotidienne locale se rebiffe, fait de plus en plus d'investigations, essaie de produire de l'information de meilleure qualité, encore un peu plus aujourd'hui qu'hier. Donc il faut quand même lui donner les moyens d'être distribué. Donc soyons plutôt dans l'action du côté de la réforme de Prestalis. Soyons aussi dans l'action pour défendre les journalistes des titres de Lagardère qui manifestent régulièrement devant leurs journaux et se sentent un peu abandonnés par les pouvoirs publics devant cette prise en main de Reworld, et je pense qu'on pourra aller vers un avenir meilleur.
Et pour finir, je pense qu'il faut que les lecteurs qui nous écoutent aussi prennent conscience de la valeur de l'information et le fait que cette information, elle a un prix, et que voilà, aujourd'hui, plein de marchands ou des titres locaux se plaignent que plein de gens font des photos par exemple d'un article local.
Ah mais racontez-nous ça, parce que c'est très important pour la presse locale.
On me raconte beaucoup, et je le vois, des gens font par exemple la photo de l'article qui est dans le journal, et la mettent sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, etc. Donc gratuitement. Donc c'est-à-dire qu'on partage cette info qui a eu un coût à produire gratuitement, et je pense que ça...
Mais on va vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire il y a eu une kermesse, un événement local, un événement sportif dans un village, dans une commune. Jusqu'à présent, le lendemain matin, on allait acheter son titre de presse pour voir les photos du village, les résultats sportifs, etc. etc. Aujourd'hui, toutes les associations qui l'organisent photographient l'article et le mettent sur leur page Facebook.
Pas toutes, mais un certain nombre. Et donc là, quand les journalistes se plaignent en disant « mais vous pouvez pas faire ça quand vous allez à la boulangerie, évidemment que vous payez votre pain », là, les associations disent « mais vous n'allez pas vous plaindre, je vous fais de la pub ». Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut réintégrer le fait que l'information elle a un coût, une valeur et donc un prix. Et donc c'est peut-être nous aussi journalistes qui à un moment avons payé là-dessus, mais il faut apprendre tout ça à nos citoyens.
Julia Cagé, Cyril Petit qu'on lit dans le journal du dimanche, et Julia Cagé chez Fayard, le prix de la démocratie. Merci beaucoup à tous les deux,
merci.
Ce sujet nous passionne et on y reviendra.